Jeudi passé, vous le savez sans doute, et si vous ne le savez pas, vous l'apprenez, le philosophe et auteur engagé Bernard-Henri Lévy était à Bruxelles à l'occasion d'une conférence organisée par l'European Jewish Congress. Il a parlé de son voyage en Israël dès le lendemain du 7 octobre et du livre qu'il a écrit par la suite, intitulé « Solitude d'Israël », paru en mars de cette année 2024 aux éditions Grasset. On écoute deux extraits de la conférence qu'il a donnée.
Tenter de répondre aussi aux arguments qui sont renvoyés aussi aux défenseurs d'Israël aujourd'hui. Autre chapitre donc, qui m'a passionné moi personnellement, c'est les pièges du bon sens. Vous citez donc trois éléments de langage, trois arguments d'autant plus ravageurs, c'est ce que vous dites, hein, qu'ils semblaient relever du bon sens. Commençons par le premier, le « oui mais ».
Oui, ce qui vous arrive est terrible, mais vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. C'est le « oui mais » des réactions au pogrom d'Amsterdam il y a 10 jours. Oui, en effet... Il y a tout un network de chauffeurs de taxi qui ont planifié une chasse à l'homme juif, mais ils l'ont bien cherché parce qu'à l'arrivée de l'avion, il y a peut-être un ou quelques-uns qui ont chanté une chanson obscène ou qui ont fait des déclarations indécentes. Mais oui, mais ça veut dire que à supposer qu'il y ait eu des hooligans parmi les supporters du club des Maccabées, à supposer qu'il y ait eu des hooligans, ce qui n'est d'ailleurs pas certain, ben, imaginons, les hooligans juifs sont... ces hooligans-là, parce qu'ils sont juifs, ont le droit d'être pogromisés, ce qui est absolument insoutenable. Donc le oui mais est un trope rhétorique, une manière de raisonner et de s'exprimer, qui est la forme la plus raffinée de l'antisémitisme.
Deuxième argument, deuxième élément de langage que vous citez dans votre livre, Bernard-Henri Lévy, et d'ailleurs vous faites des exemples assez concrets, notamment sur la réaction américaine après le 11 septembre. Ils ont tout simplement envahi un voire plusieurs pays. Vous parlez de la réaction aussi française à la menace djihadiste, avec Raqqa et Mossoul qui ont été quasiment rasés par les forces armées françaises. Comment vous expliquez que ce mot cessez-le-feu soit arrivé aussi vite après le 7 octobre ?
D'abord, en effet, je le constate et je suis assez bien placé pour le constater parce que dans les deux exemples que vous citez, les Américains punissant Al-Qaïda en 2001 et les Français punissant l'État islamique en 2016, dans les deux cas, j'étais là. En 2001 et 2002, j'étais l'envoyé spécial du président de la République française de l'époque, de décembre 2001 à mars 2002, président Jacques Chirac. Il m'a envoyé en Afghanistan, à l'époque, pour réfléchir à la manière dont la France pourrait participer à la construction d'un Afghanistan post-Al-Qaïda et post-Taliban. Donc j'étais là, j'ai vu la manière dont les Américains ont réglé le problème al-Qaïda et réglé le problème taliban. J'ai vu les épouvantables destructions physiques, et victimes civiles de toutes sortes et partout, à Kandahar, à Mazar-i-Sharif, etc. Et je n'ai pas entendu à l'époque une voix internationale dire « Ah mais attention, est-ce que vous êtes sûr que la réaction soit bien calibrée? Est-ce qu'il n'y a pas de disproportion ?» Personne n'y a songé. En 2016, et là c'est pas il y a 23 ans, hein, c'est maintenant, c'est il y a 5 ans, j'étais à Mossoul, je tournais un film pour Arte qui existe, que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site d'Arte, qui s'appelle La bataille de Mossoul. Donc là, je voyais les bombes tomber. Je voyais les victimes civiles atroces qui brisent le cœur, dont les images vous hantent, croyez-moi, jusqu'à la fin de vos jours. Donc j'ai vu cela. J'ai vu comment mon pays, la France, comment les alliés de la France, comment... les États arabes alliés de la France et alliés des autres alliés occidentaux de la France, il y a les États-Unis, comment toute cette grande coalition internationale s'est formée afin de débarrasser la région et le monde des responsables du Bataclan, Charido, c'est l'État islamique. Et là, c'est vrai qu'on est dans une situation qui est absolument comparable. C'est plus Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est le Hamas. C'est plus l'Afghanistan ou Mossoul, c'est Gaza ou le sud du Liban, mais c'est exactement la même situation. Et au lieu de loi, au lieu de voir une coalition internationale puissante et unanime autour de l'État en première ligne, c'est-à-dire Israël, Israël est seul à mener cette opération. Et loin de remercier Israël, ce qui serait la moindre des choses dès lors qu'on le laisse seul, loin de remercier Israël de mener cette bataille seul, alors que nous, les Français, nous étions nombreux, les Américains nombreux, non seulement on ne remercie pas Israël, mais on l'adjure, on lui ordonne jour après jour de s'entendre avec l'État islamique du moment, de faire la paix avec Al-Qaïda. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un intellectuel que je ne vais pas citer ici, il n'est pas l'intellectuel français, qui avait proposé de faire un accord avec l'État islamique, une sorte de d'accord de Munich. Mais quel tollé, à juste raison. Le tollé, à juste raison, cette proposition était infâme. Faire un accord avec l'État islamique, le considérer comme un acteur non gouvernemental, enfin, au nom du respect de la réalité. Tout le monde s'est élevé. Là, aujourd'hui, de la Maison-Blanche à l'Élysée, aux autorités de l'Union européenne, c'est exactement ce qu'on demande à Israël. Cessez le feu, n'escaladez pas. Personne n'a demandé depuis le 8 octobre au Hezbollah, alors que le Hezbollah escaladait tous les jours et qu'Israël faisait la torture romaine sous les bombes. Personne n'a jamais demandé au Hezbollah de ne pas escalader.
Avec 100 000 personnes qui ont été évacuées.
80 000 personnes qui ont été évacuées. 80 000 personnes déplacées dans leur propre pays, c'est-à-dire en Israël, parce que le déluge de bombes du Hezbollah était absolument insupportable. Donc, non content de ne pas se joindre à la coalition, fait sans précédent au XXIe siècle. Non content de ne pas approuver, de ne pas remercier, de ne pas dire bon, très bien, on n'en est pas, mais enfin au moins ils font le travail, on leur met des bâtons dans les roues, on tente de les en empêcher, on les soumet à la justice internationale, on les fait inculper par tantôt la CPI, tantôt la Cour pénale, la Cour de la Haye. C'est une situation absolument hallucinante. Aurait-on imaginé le président Hollande traîner devant la Cour pénale internationale, devant le tribunal de La Haye, parce que les armées françaises étaient en train de réduire à un tas de gravats ou de cendres la ville historique de Ninive et le tombeau du prophète Jonas? C'est une idée de personne. Heureusement d'ailleurs, moi j'étais pour l'opération militaire à Mossoul. Heureusement. Mais là, c'est ce qui est en train de se passer avec Israël.
Passons au troisième argument, si vous voulez bien, Bernard Lévy. Vous parlez du jour d'après, avec une citation qui en dit beaucoup. Vous dites « Les Israéliens n'en avaient pas encore fini avec le jour d'aujourd'hui, on leur demandait déjà de passer celui d'après. » Et là, je vous rejoins tout à fait, parce que moi, j'étais confronté à ce genre de débat sur mon plateau, où les gens disaient « Eh bien, après le 7 octobre, ça y est, il est temps de faire la paix. Il est temps de donner aux Palestiniens un État. »
J'ai toujours pensé, depuis mon premier voyage en Israël en 1967, que la seule manière d'avoir une paix durable dans la région, la seule manière pour Israël de vivre en sécurité, ce serait d'arriver à s'entendre avec des représentants éclairés du peuple palestinien. J'ai toujours pensé. Je le penserai encore jusqu'à la fin de mes jours. Il y a un moment où je ne le pense plus. Il y a un moment où je pense qu'il est obscène de proposer une solution à deux États. Il y a un moment où il serait criminel de dire « Voilà, messieurs, voilà l'État auquel vous aspirez depuis longtemps, c'est maintenant. » Le seul moment où il ne faut pas le faire, c'est justement le moment présent. Parce que ce serait une récompense aux terroristes, mais ce serait surtout une telle gifle donnée à tous ceux qui, dans la région, dans le monde arabe, croient en la démocratie, croient en la paix. Ça veut dire ce que vous n'avez pas obtenu par des moyens normaux, ce que vous n'avez pas obtenu par des moyens pacifiques, ce que vous n'avez pas obtenu par la négociation, ou ce que vous avez obtenu mais que finalement vous n'avez pas voulu. Vous commettez le pogrom le plus terrible, le plus jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, et là on vous dit « Ok les gars, On a compris, 5 sur 5, excusez-nous, on n'avait pas bien réalisé, voilà l'État. Enfin, écoutez, le jour où on faisait cela, le jour où certains pays nordiques ont reconnu l'État palestinien, alors qu'ils ne l'avaient pas fait avant, hein, alors qu'ils pouvaient faire depuis des années et des années, c'était une manière de mettre sur le pavois, d'installer en position de victoire, de transformer en héros, mettez-vous à la place des peuples de la région, d'un seul coup, ils disent voilà ce que toutes les factions possibles, imaginables de la direction, n'ont jamais, palestiniennes n'ont jamais obtenu, il faut faire un massacre, il faut faire un pogrom, il faut violer et détruire, et là vous l'obtenez. Mais c'est une leçon terrible. Donc bien sûr, je suis, moi qui ai été pour et qui serai pour une solution à deux États, il y a un moment où je ne le suis pas, c'est tant qu'il reste aux commandes de Gaza et dans les instances dirigeantes et dans les élites de Cisjordanie, des dirigeants qui croient que le Hamas est une organisation islamique. Tant qu'il y aura ça, tant que la société palestinienne n'aura pas compris que cette voie est une voie fermée, est une voie sans issue, que cette voie est une impasse, il ne faut évidemment pas parler des deux États.
Restaurant un court instant, l'occasion d'une solidarité sans faille, très court instant, on l'a dit, qui s'est vite transformée en un vent d'antisémitisme, et vous le dites, hein, plus que ça, vous parlez de haine contre les juifs, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, et vous dites que c'était peut-être le pire dans les deux pays qui vous sont chers, à savoir la France et les États-Unis, avec, c'était cité tout à l'heure, le nom de Rima Hassan, de Jean-Luc Mélenchon, donc des personnalités d'extrême gauche aujourd'hui en France, ça a été pareil chez nous ici en Belgique, qui ont eu du mal à tout d'abord condamner finalement cet acte du 7 octobre, encore plus à utiliser le mot de terrorisme. Comment vous expliquez que des gens qui vivent comme vous et moi n'arrivent pas à la même conclusion que ce que vous venez de montrer à l'instant?
Parce qu'ils ont perdu la raison, parce qu'ils ont perdu la tête, parce qu'ils ont perdu leur boussole morale, parce que c'est devenu des fascistes. Ceux qui, dans mon pays, la France, la Belgique, je connais moins, mais il y a des dirigeants de la France insoumise, des députés drapés dans leur écharpe tricolore, qui ont ri après le massacre, qui ont blagué un d'entre eux, je ne vais même pas citer son nom, en visite à Tunis, qui a été filmé en train de faire des blagues graveleuses sur les victimes du 7 octobre. C'est, pour moi, cela n'est pas différent de ces images que l'on a des officiers de la Wehrmacht se congratulant, se faisant photographier comme dans un safari avec les victimes juives des villages polonais qu'ils venaient de liquider. Voilà, on a des forces politiques en Europe. On a une élite académique aux États-Unis. En effet, j'en reviens,
De gauche, dans les deux cas. Hein.
Oui, ils se prétendent de gauche, mais pour moi, ça, c'est l'extrême droite. Franchement, des gens qui rient sur les charniers, qui trouvent hautement amusant l'idée d'un bébé trucidé, je vois pas ce qui reste de gauche à ces gens-là. Je vois pas ce qui reste d'universalisme, d'esprit des Lumières ou d'humanisme. Mais c'est en effet la situation dans laquelle on assiste.
D'ailleurs, vous allez plus loin parce que vous dites que ça ne peut pas être que du simple électoralisme et qu'il y a évidemment peut-être quelque chose derrière.
Je crois plus que c'est de l'électoralisme. D'abord, dans le cas de la France insoumise en France, ça ne rapporte rien, ils perdent. C'est-à-dire que la France insoumise décline dans les sondages depuis 7 octobre. Et moi, je connais certains d'entre eux très personnellement. Je crois qu'ils sont animés maintenant d'une haine authentique. Ce n'est pas un calcul électoral, ce n'est pas du machiavélisme. C'est leur faire trop d'honneur à leur intelligence et faire trop de honte à Machiavel, qui ne mérite pas ça, que de qualifier ça de machiavélisme. Non, ils sont animés d'une vraie rage, d'une vraie détestation des Juifs, d'une réjouissance à l'idée de leur malheur, de leur solitude, Regardez, c'est la semaine dernière, la réaction au pogrom d'Amsterdam, à la tentative de pogrom en tout cas. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, il y a eu 25 blessés et pas de mort. La manière dont ces partis-là, dits de gauche, ont réagi, est digne de l'extrême droite allemande des années 33-34 qui allait brûler les magasins juifs à Berlin.
On n'a évidemment pas le temps de tout dévoiler de votre livre aussi, Bernard Ruggeli. Peut-être une dernière question. Je rappelle que ça s'appelle La seule équipe d'Israël, même si de nombreuses fois vous dites que ce sont les juifs qui sont seuls aujourd'hui. Très heureux d'entendre qu'Estakenko, justement, vous contredit sur ce coup-là. Une dernière question très simple. Comment voyez-vous le futur d'Israël à court, moyen et long terme, Bernard Ruggeli?
À court terme, je crois qu'Israël est en train, seul, le dos au mur, dans des conditions politiques terribles, de gagner cette guerre, mais seul, malgré ses alliés, en rusant avec ses alliés. C'est une situation ahurissante, mais c'est la vérité, mais est en train de gagner cette guerre. Et à moyen et à long terme, moi je suis de ceux qui pensent que les valeurs d'Israël, malgré tout ce qu'on peut dire, et malgré tout, malgré l'état de guerre permanent, est extraordinairement vivant. Je connais bien Israël depuis très longtemps, depuis donc 50 ans, et je pense que le sionisme, les valeurs fondatrices d'Israël, est toujours extraordinairement vivant. Je prendrai un seul exemple. Vous savez, il y a une loi dans l'histoire des démocraties. Il y a un théorème. Quand une démocratie entre en guerre, elle ouvre l'état d'exception. C'est-à-dire qu'elle suspend quelques-unes de ses libertés démocratiques et parfois un grand nombre d'entre elles. C'est comme ça. Quand la France fait la guerre d'Algérie, par exemple, mène la guerre en Algérie entre 1954 et 1962, il n'a pas fallu plus de 3 ou 4 ans pour que le législateur français suspende une à une certaines de libertés fondamentales au nom des impératifs liés à l'état de guerre. Lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, exemple précédemment cité, en Afghanistan contre les talibans, en septembre 2001, il n'a pas fallu plus de quelques semaines pour que l'administration Bush édicte le Patriot Act 1 et puis quelques mois plus tard le Patriot Act 2, qui lui aussi suspend les libertés. Israël, c'est assez extraordinaire quand on y songe, est en guerre, pas depuis quelques semaines, comme les États-Unis quand ils font Patriot Act 1, pas depuis quelques années, comme la France quand elle commence à interdire les autorités françaises interdisent l'hebdomadaire L'Express et interdisent les manifestations dans la rue de Paris. Israël est en guerre depuis 75 ans. État de guerre permanent, en gros, allant de guerre en guerre. Et les parenthèses entre deux guerres, ce sont des moments de paix armée. C'est-à-dire, en vérité, depuis le jour de sa naissance, Israël est en guerre, c'est comme ça, c'est un fait qu'Israël n'a pas souhaité, qu'il faut, qu'on peut et qu'il faut déplorer, mais qui est là. Israël n'a pas connu, a connu des, heureusement, des traités de paix avec certains de ses voisins, mais vit en état de guerre depuis 75 ans, en état d'alerte. Eh bien, c'est le seul cas que je connaisse d'une démocratie qui, en état de guerre, et depuis si longtemps, n'a jamais suspendu une seule de ses libertés fondamentales. Regardez bien l'histoire d'Israël depuis 75 ans. En tout cas, depuis que vous êtes en âge, vous d'observer et moi d'observer. Il n'y a pas un exemple où un gouvernement israélien, qu'il soit de droite ou de gauche, ait dit en situation de guerre, on ne peut pas se permettre d'avoir des manifestations de rue. On ne peut pas se permettre d'avoir une presse qui dénonce le gouvernement, le principe même parfois de l'État d'Israël, ou la, ou la guerre. Pas une fois. Et aujourd'hui, prenez la situation d'aujourd'hui, vous avez, et c'est un cas encore une fois unique au monde, vous avez tous les samedis soirs des manifestations monstres dans les rues de Tel Aviv contre le gouvernement israélien par des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui le dimanche matin vont aller reprendre d'ailleurs leur battle dress et vont retourner au front lorsqu'ils étaient en permission. Mais vous avez des manifestations tous les jours. Vous avez aujourd'hui même, hier, un Premier ministre, on peut penser ce qu'on veut de Benjamin Netanyahu, c'est pas la question.
Vous êtes très dur avec lui dans le livre, d'ailleurs.
Oui, je suis très dur. En général, je ne fais pas partie de ses partisans. J'ai vu Netanyahu il y a quelques mois, dans son bureau de Jérusalem, une nuit, à sa demande, et j'étais très heureux de le voir d'ailleurs, et de m'entretenir avec lui aussi longuement. Donc, des manifestations. Un Premier ministre sur le grill, une presse vent debout, souvent, contre la manière dont cette guerre est menée, sans toujours proposer d'ailleurs une manière alternative. Enfin, vent debout, des partis anti-sionistes, c'est-à-dire hostiles à l'idéal fondateur de l'État d'Israël, représenté à la Knesset, et qui peuvent demain faire tomber le gouvernement actuel, peut-être. Ce sont les trois partis arabes qui sont absolument intégrés dans le jeu des institutions israéliennes. Une démocratie qui fonctionne comme ça, et qui, au milieu d'une guerre existentielle, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une guerre pour un territoire, ce n'est pas une guerre pour améliorer les paramètres de Clinton et pour obtenir un État palestinien qui ferait 3% de plus. C'est une guerre dont les protagonistes, dont les adversaires, veulent ni plus ni moins la disparition d'Israël. Un pays qui, au milieu de cette guerre, est capable d'accepter l'intensité de la vie démocratique, parce qu'un Premier ministre est en cause, et des manifestations monstres, ça s'appelle la vitalité démocratique. Ce pays-là, à moyen terme et à long terme, j'ai foi en son avenir. Et je pense qu'il sortira vainqueur d'une part, grandi de l'autre, de cette terrible épreuve. Et je crois d'ailleurs, vous savez, souvent on me demande ça, des amis qui disent, mais tout de même, est-ce que la bataille de l'opinion, est-ce que l'image d'Israël n'est pas en train de se dégrader, etc., etc., etc. Je suis optimiste. Je pense que le moment viendra, mais ça doit passer par une victoire militaire, comme toujours, comme contre les nazis, comme contre l'État islamique, comme contre les talibans. Ça doit passer par une victoire militaire. Le jour viendra où on saura gré et où l'on rendra grâce à Israël, où on remerciera Israël d'avoir pris sa part, cette part, au combat de toutes les femmes et de tous les hommes libres du monde pour la démocratie et contre les dictatures obscurantistes.